Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour et bienvenue sur RLP Business numéro 17 aujourd'hui avec Patrice et Stéphane. RLP Business, une autre façon de faire du business, le management, du commercial, de l'économie en Périgord et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre façon de faire du business. Nous allons parler d'expertise, d'honnêteté, de fidélité avec Monsieur Levaillant du garage Levaillant Château-l'Évêque, une institution locale. Mais ne bougez pas, j'ai une petite surprise pour vous. Ce sont les actualités de la semaine.
Les actualités.
Actualité, vous savez qu'ici nous aimons beaucoup les TPE, les PME et autres, et je suis tombé sur une perle, nous payons tous la TVA, moi je me rappelle encore de ce contrôleur à Clichy, à qui je demandais un report, parce que trimestriellement, en 2002, c'était un peu la crise, et qui me répondait « Oui, vous, les patrons, etc. etc. » Mais la TVA en France, il y a un monsieur, David Guiraud, qui s'est exprimé à l'Assemblée nationale, donc il y a quelques jours, et qui nous a fait une déclaration extrêmement intéressante.
Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, on est en train d'examiner les comptes de l'État, et vous ne dites pas un mot sur la principale rentrée d'argent de l'État qu'est la TVA. Pas un mot. Principale rentrée d'argent, on n'a rien à en dire. C'est pas comme si vous discutiez pas des autres sources, parce que vous êtes bavard sur l'impôt sur les sociétés. Vous avez fait la baisse de l'impôt sur le revenu. 40% des plus pauvres chez les Français ne payaient pas l'impôt sur le revenu. Par contre, la TVA qui est devenue votre instrument principal de politique publique, tout le monde le paye. Les classes populaires, les classes moyennes. En soi, si l'impôt il va à l'État pour faire de la redistribution, pourquoi pas? Pourquoi pas si c'est pour de la redistribution? Mais voilà précisément ce qui est en train de se passer. C'est qu'il est en train de disparaître autre part. La TVA sur le budget, là, c'est 100 milliards d'euros pour l'État. Mais c'est bizarre parce que en 2021, en 2022, on n'a pas collecté 100 milliards d'euros avec la TVA. On a collecté le double, quasiment deux fois plus. Alors l'argent, il est parti. Il a disparu des documents financiers de l'État. C'est une masse énorme d'argent pourtant. C'est plus de 80 milliards d'euros. Avec plus de 80 milliards d'euros, on pourrait en faire des choses, hein.
Voilà. N'oubliez pas tous, à la fin du mois, de faire votre rappel de cotisation. Patrice, bonjour, tu vas bien ?
Bonjour à vous tous, très très bien, merci.
Tu as passé une bonne semaine ?
J'espère, enfin, moi très bien, mais très bonne. J'espère pour tous nos auditeurs.
Dans ce réchauffement climatique intense, cette sécheresse.
C'est l'été, écoutez, il fait chaud, il pleut un peu de temps en temps.
Voilà. Monsieur Levaillant, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Nous avons donc aujourd'hui, c'est Philippe Levaillant, c'est ça ?
Philippe Levaillant, c'est cela.
Qui nous rejoint, qui est notre invité de la semaine, ne bougez pas, c'est tout de suite après ça.
L'invité de la semaine.
Nous sommes en direct avec Philippe Levaillant qui tient la station de Château-l'Évêque. Je vois qu'avec Patrice, vous connaissez.
Alors, pas tout à fait. Monsieur Levaillant, je le connais peu, pas du tout même, j'ai envie de dire, mais je connais son épouse, pardon, ils sont mariés, Nathalie Charrier, pour la nommer, si, parce que, un petit bonjour à Nathalie.
Bon, j'espère qu'elle écoute.
J'espère aussi.
Donc le garage Levaillant à Château-l'Évêque, qui a ouvert en quelle année ?
Alors nous, c'était une gérance au départ, on est arrivé en 87.
D'accord, donc ça fait un petit moment quand même. Ça
35
fait,
ans.
35 ans, tout à fait. Et vous avez ensuite pris la propriété du garage ?
Oui, plus récemment, c'était en 2006.
Ok, très bien. Et j'ai cru comprendre que vous envisagiez une cession ?
Oui, bah oui, ça va. Oui, je vais arrêter là.
Vous allez arrêter ?
Je vais partir en retraite.
Ah.
En octobre.
Monsieur Levaillant, on va en retraite en octobre. Mm. Et qui c'est qui va reprendre ?
Deux mécanos qui vont s'associer.
Avec votre fils ou
Non, mon fils veut faire auto-entrepreneur, je crois qu'il m'a dit.
Ouais. D'accord, ouais. Ok. Bon, mais vous allez les accompagner au début pour garder le savoir-faire.
Oui, on fait un tuilage. On a dit sur 3 mois à peu près. Mais on verra bien comment ça se passe. Mais bon.
Oui. D'accord.
Ça va s'effilocher petit à petit, quoi. On va dire, ça va s'amenuiser ma présence, sinon ils se mettront pas en place, quoi.
Bien sûr. Donc déjà, ce sont les informations de la journée, hein. Le garage Levaillant à Château-l'Évêque va changer de propriétaire vers la rentrée, avec un accompagnement. C'est la fin d'une époque.
Oui.
Vous-même, vous êtes garagiste, vous êtes mécano depuis combien de temps ? Vous avez pris la gérance en 83, mais vous,
87.
Vous êtes 87, pardon. Et vous, vous avez toujours été dans le métier ?
Oui, non, je fais 5 ans dans l'administration et puis après je suis ressorti pour faire mon métier.
En quelle année ?
Eh ben, alors là, vous me demandez, j'ai fait mon apprentissage 77-79, donc j'ai dû être à peu près donc 5 ans, 87, de 82 à 87, j'étais dans l'administration. Voilà.
D'accord, mais vous avez fait une formation de mécano et
oui,
tout.
Apprentissage.
D'accord,
et
ce qui explique que, parce que je tiens à le mettre en avant, parce que j'en essaye pas mal dans la région quand même, il y a des changeurs de pièces et il y a des mécanos. C'est pas la même chose. Donc vous avez appris à démonter un moteur, à remonter un moteur, vous avez bossé sur des voitures à l'ancienne, où il n'y avait pas beaucoup d'électronique à l'époque.
Oui.
Vous faites partie de cette génération où on sait démonter une voiture et remonter une voiture. En fait, si vous vouliez faire la vôtre demain, vous pourriez presque la faire.
Oui. Mais non, c'est oui. Avant, on refaisait par exemple des alternateurs, des démarreurs. On retrouvait les pièces, ça se refaisait, ça repartait. Maintenant, on change les pièces, quoi.
Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui.
Alors c'est un métier. Moi, je suis passionné d'automobile. Enfin, comme peut-être beaucoup de, enfin passionné. J'aime les automobiles et j'ai toujours entendu parler depuis une vingtaine ou une trentaine d'années que le métier de garagiste, comme vous le faites, c'est-à-dire métier de garagiste sans marque, le dépannage, la mécanique, était un métier qui se compliquait parce que les voitures devenaient de plus en plus techniques et que les constructeurs, en fin de compte, essayaient de ramener le SAV et l'entretien des véhicules dans sous leur enseigne et dans leur propre garage au détriment des garagistes indépendants. Et en fin de compte, vous avez tous survécu quand même, essentiellement.
Ah oui, et puis même, je vois les collègues et tout le monde fonctionne très bien. Même.
Donc chacun a trouvé sa place.
Oui, parce que les ateliers des concessions, ça, ils ont une capacité, mais pas non
bien
plus.
Sûr.
Donc eux, les véhicules, ils sortent, on dit, du réseau 4 ans, 5 ans, et on retrouve ces véhicules, nous, les MRA, mécaniciens réparateurs automobiles sans marque ou sans... Voilà, on retrouve ces véhicules 4-5 ans après leur sortie.
Alors, il y a eu quand même un changement extraordinaire dans votre métier, hein. C'est quand l'électronique s'est réellement imposée dans les véhicules, parce que des mécaniciens mécaniques, il y en a eu depuis l'âge de l'automobile, la création de l'automobile, mais quand l'électronique a débarqué, c'était quand même une certaine révolution dans le métier.
Ouais, il y a eu un moment de flottement. Mais maintenant, avec tous les organismes de formation et tout ça, maintenant, celui qui veut former soi ou son personnel, il y a de quoi. Et c'est très intéressant, d'ailleurs.
Alors moi, je voulais arriver à la question suivante. Maintenant, avec les véhicules électriques, si tant est, les véhicules électriques remplacent réellement les voitures thermiques. Hein, ça, on n'a pas encore la preuve. Mais imaginons que ça se passe. Que va devenir le mécanicien automobile, le garage automobile avec des voitures qui n'ont plus de moteur thermique?
Ben là, ça se réduit à l'entretien. Pneus, freins, pare-brise, des choses comme ça.
Oui, parce qu'un moteur électrique, il n'y a pas beaucoup d'entretien sur un moteur électrique.
Non, pas avec le recul que j'ai toujours. Hein. Oui, non.
Donc c'est un métier qui va encore évoluer avec le temps, comme beaucoup d'autres métiers hein, d'ailleurs. Hein.
Oui, mais il y a un parc automobile tellement fourni qu'il y a pour des années et des années.
On n'est pas prêt de changer toutes les voitures thermiques en voitures électriques.
On m'avait dit qu'il y avait de moins en moins de voitures d'occasion. Vous confirmez?
Oui, ben alors ça, je ne suis pas un vendeur d'occasion, hein, mais oui, le marché est tendu, les prix sont chers.
J'ai remarqué aussi.
Il y a peu d'approvisionnement. Est-ce que c'est parce qu'ils se vendent moins de neuves? Les neuves, maintenant, c'est quelquefois un an d'attente. Vous commandez votre voiture, il faut attendre un an quelquefois pour l'avoir.
Oui, c'est peut-être une des réponses, hein. C'est qu'une voiture neuve, aujourd'hui, il faut attendre un an pour la recevoir.
C'est ça.
Et donc, puis, il y a toutes les primes à l'achat qu'ils ont faites. Il y a beaucoup de voitures qui sont parties en destruction aussi.
Aussi.
Il y a eu ce phénomène. Il y avait des voitures très sympas qui partaient en destruction.
Oui. Enfin, aujourd'hui, voulez une voiture neuve, vous voulez changer de voiture, admettons que ce soit un impératif. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver une occasion. Hein. Vraiment difficile. Hein.
À 2-3 000 balles, ça devient dur. Hein.
Très dur. Très
surtout dur. À ce prix-là. Oui, surtout
très, très
à ce prix-là.
Dur. Maintenant, une voiture d'occasion, il faut entre 5 et 10 000 euros, sinon vous n'avez pas grand-chose. Quoi. Et encore, c'est des voitures qui sont, comme on dit, kilométrées et tout. Hein.
Ce qui pose un autre problème, hein, bien évidemment, parce que la voiture, surtout dans nos campagnes, comme par chez nous, hein, on n'est pas dans un grand centre urbain, sans voiture, on ne peut rien faire hein, dans notre département. Hein,
Là, je vois, nous, sans voiture...
Donc, ce n'est pas possible. Même nous, autour de Périgueux, j'ai envie de dire que même le grand Périgueux, Bah, le Grand Périgueux, il n'y a pas des bus, tous les 10 minutes comme on peut en trouver dans les grandes villes. Hein. Donc si on n'a pas de véhicule, ça devient compliqué. Et à aujourd'hui, sortir entre 5 ou 10 000 euros, plus proche des 10 000 euros d'ailleurs pour un véhicule d'occasion, tout le monde n'a pas cette somme en poche. Hein.
Non.
Et toutes les banques ne prêtent pas non plus cette somme-là à tout le monde.
Apparemment, elles sont de plus en plus frileuses aussi.
Aussi. Donc ça se complique. Ça se complique.
Et dans le même temps, il devient parfois extrêmement compliqué d'avoir un rendez-vous chez le garagiste. Je vois qu'aujourd'hui, si je vous dis par exemple demain, je dois venir vous voir, vous allez me dire oui, mais pas avant un certain temps, alors que dans ma jeunesse, ce n'était pas aussi long. Alors ça, c'est une question qui intéresse beaucoup, parce que ce n'est pas que chez vous, hein, c'est général. Pourquoi actuellement y a-t-il autant de temps d'attente pour passer, pour ramener sa voiture chez le garagiste?
Ben, plusieurs phénomènes, justement, parce que les gens, du coup, font réparer, parce que neuf ou occasion, les voitures sont chères, donc ils gardent leur voiture, ils font réparer. Donc ça
fait...
Après, nous, niveau personnel, c'est compliqué de trouver du monde maintenant. Hein.
Ah, vous avez un problème de recrutement de personnel aussi?
Partout. Tous les métiers manuels.
C'est dur de trouver un bon mécano, quelqu'un qui...
Oui, ou même d'en former un, c'est dur de trouver quelqu'un.
C'est vrai qu'il bouge beaucoup chez vous, hein. C'est pas souvent... Enfin, vous les gardez difficilement sur la durée, hein.
Ah, j'ai pas trop un plein quand même. Là, en ce moment, non, j'ai pas trop un plein.
D'accord, c'est que moi, je vous vois pas forcément tout le temps non plus. Mais c'est vrai.
Alors, l'équipe a grossi, par contre. Donc, on a plus de monde.
D'accord. Oui.
Mais non, j'ai des contrats d'apprentissage. Là, ça se tient. Mais c'est compliqué. Ça a l'air d'être un peu mieux. On dirait qu'il y a plus de gens qui se forment sur la mécanique.
D'accord. Ouais.
Mais voilà, ça explique que c'est duré. Mais en concession, c'est quelquefois 3 semaines, 1 mois pour un rendez-vous.
Oui.
Alors je lisais dans un support, je ne sais pas, je n'ai pas pu vérifier si réellement les chiffres sont bons, mais il y avait une grosse augmentation de chiffre d'affaires du métier des garagistes indépendants. Gros chiffre d'affaires, tout est relatif, mais il y avait une progression de chiffre d'affaires, j'ai envie de dire, à structure équivalente. Alors ça voulait dire, dans l'article que j'ai pu consulter, que les réparations que vous faisiez sur les véhicules avaient une augmentation de prix, peut-être liée tout simplement, peut-être aussi parce que les propriétaires, n'ayant pas d'argent, enfin l'argent disponible pour acheter une voiture neuve, font entretenir leur voiture plus longtemps, donc la voiture vieillit plus, et donc les réparations coûtent plus cher peut-être.
Oui. On fait des devis quand même conséquents.
Moi, c'est ce qui m'a semblé, parce que dans mon entourage, j'ai bien évidemment des amis qui font réparer leur voiture, et il y a des fois, ils me parlent de sommes coquettes, hein, pour des réparations de voitures qui pouvaient aller sur des 1 000, 2 000 euros de réparation. Sur le coup, on peut se dire, mais attends, mettre autant d'argent dans une réparation, est-ce que c'est bien nécessaire sur un véhicule, il y a des fois qu'il y a plus de 10 ans, mais c'est sûr que qu'est-ce qu'on peut avoir en contrepartie si on décide de changer la voiture? Bon, on n'a rien pour cette somme-là, quoi.
Une trottinette.
Dans l'urgence, c'est la solution.
Oui.
Après, les gens peuvent garder la voiture. Ils se disent, je vais investir cette somme. Je vais faire 2 ans avec, par exemple. Pendant ce temps-là, j'en cherche une autre, quoi.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça. Donc, une augmentation de chiffre d'affaires dans la profession, liée à un parc vieillissant et liée aussi à un problème de financement et de valeur pour changer de véhicule. Donc, c'est un métier, en fin de compte, qui se porte bien aujourd'hui.
Moi, je ne me plains pas.
C'est bien d'entendre ça. Non, mais ça fait plaisir.
Attention, il faut faire des heures. Hein. Ça ne se fait pas comme ça.
Oui, il faut le dire. Mais
je parle pour moi.
On a tellement l'habitude.
Et les gens sont exigeants aussi parfois. Hein. Ils sont demandés.
Ben oui, parce que on habite Château-l'Évêque, pas de voiture.
Bien sûr.
Ils ne peuvent pas amener les enfants à l'école, ils ne peuvent pas aller au travail.
Les gens sont exigeants, puis les gens sont méfiants aussi. C'est un sujet aussi que je voulais aborder, parce que vous n'avez pas non plus dans la profession, j'entends bien, je ne parle pas du garage Le Vaillant, mais la profession de garagiste n'a pas eu que des lettres de noblesse et une valeur d'honnêteté parfaite, hein, parce qu'on a tous pu, j'imagine, rencontrer des garagistes qui avaient la main lourde sur la préconisation de changement de pièces. Il y a aussi les grandes surfaces, hein, qui sont mises dans le quand je dis les grandes surfaces, c'est les grandes enseignes, pardon, hein, les centres auto,
oui.
qui aussi, hein,
oui, certains Leclerc font leur garage maintenant,
qui ont une approche de la mécanique qui leur est propre, hein, j'en dirais pas plus, mais il n'en est pas moins que c'est un métier manuel, bien sûr, c'est un métier difficile. Je ne sais pas si on peut appeler ça difficile, parce qu'à ce moment-là, tous les métiers sont difficiles. Du moment qu'on se lève le matin, ça devient difficile. Mais en tout cas, c'est un métier qui est intéressant. C'est un métier qui permet de travailler sur une multitude de mécaniques différentes, de marques différentes, de chercher des pannes aussi. Il n'y a pas uniquement de changer des pneus, c'est chercher les pannes, trouver les pannes. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. Et puis c'est pas un métier, routinier, quoi. On n'intervient pas toute la journée sur le même moteur. Donc, c'est un métier qui, je pense, a son intérêt, et c'est un métier qui, en plus, économiquement parlant, aujourd'hui, fonctionne bien, et je suis ravi que vous ayez pu céder votre commerce à des employés du garage, et que, justement, ces employés soient motivés pour le reprendre.
Oui, oui. C'était pas évident il y a quelques années. Hein. Je crois que c'est en train de...
Oui, je pense aussi.
Il y a des garages, là, ça se vend même bien. Quoi. Je veux dire, certains... Avant, il y a quelques années, le gars qui avait un garage, ben, qu'est-ce qu'il faisait ? Ben, il y avait une boulangerie.
Voilà, oui, des choses c'est comme ça. Tout à fait. Donc, j'ai envie de dire, vous, jeune, qui voulez peut-être vous lancer dans l'entreprise, regardez, pensez, intéressez-vous aussi à ce genre de métier. Enfin, ce métier, pas ce genre, mais ce métier, garagiste. Il y a certainement des opportunités de reprise. Et en tout cas, le marché est florissant.
Alors moi, ce qui m'intéresse, que j'aime bien toujours, c'est avoir une vision historique basée sur le temps. Là, on a un professionnel de plusieurs dizaines d'années, donc c'est toujours intéressant de regarder au niveau des changements, de l'histoire des évolutions et autres. Qu'est-ce qui a vraiment changé ? Quelles sont les différences dans le métier depuis 20, 30, 40, 50 ans ? À une époque, on parlait de moteur, chaque marque avait son moteur. À l'époque, il n'y avait pas d'électronique. Il fallait vraiment avoir les mains pleines de cambouis. J'ai travaillé, je suppose, il y a 40 ans, ce n'était pas comme travailler aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé ?
Alors déjà, la construction. Maintenant, c'est les gros groupes. Ils ont les mêmes moteurs, mêmes boîtes, mêmes châssis.
Ils partagent des usines de...
Ils ont des plateformes communes, ils appellent ça.
D'accord.
Une C3.
Pour ça qu'elles ont toute l'arrière qui se ressemble aujourd'hui.
Par exemple, c'est point de vue mécanique pur. Quoi. Carrosserie, ils font ce qu'ils veulent. Quoi. Mécaniquement, les trains avant, trains arrière, une C3, une 208, vous mettez dessous, vous ne voyez pas la différence, par exemple.
Quoi. D'accord.
Maintenant, les Opel, les Corsa, maintenant, c'est pareil, c'est le même. Voilà ce qui a changé. Après, maintenant, au niveau de la pollution, il y a beaucoup d'organes sur la pollution qui sont... Ça fout un bazar dans les moteurs, quoi.
Le FAB et
les
compagnie.
Les FANGR, les FAB, les choses comme ça. Tout ça, c'est uniquement pour la pollution, je comprends. Hein. Mais ça, voilà, tout ça, ça a évolué. Oui, c'est un gros souci, ça, pour les pannes moteurs. C'est
donc, souvent moins ça. D'individualisation et beaucoup plus de choses qui se ressemblent, qui sont en oui. série et qui sont en fait à remplacer et non plus à recréer.
Oui, comme je vous disais tout à l'heure, avant, on rénovait les oui. alternateurs, les démarreurs, les boîtes, les moteurs. Mm-hmm. Non, mais non, c'est changement. Hein, on change, on remplace, point.
On remplace, point, d'accord. Mm. Bon, et vous y croyez vraiment, vous, à ce changement par l'électrique ? C'est viable ?
Point de vue budget, c'est cher, on va oui. dire. Tout le monde ne pourra pas s'y mettre, hein, c'est pas possible. Mm-hmm. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait des mesures pour démocratiser tout ça, mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Après, il y en a qui ne veulent pas d'électrique, hein, tout simplement. Ils préfèrent rester au thermique, ils veulent être autonomes à 100%, ils ne veulent pas dépendre d'une borne. Voilà, il y a les hybrides, je crois que peut-être c'est la solution, l'hybride.
D'accord.
On reste autonome en étant quand même en polluant moins.
Mais technologiquement, voilà. Ça tient la route ou c'est une utopie ?
Ah non, je crois. Non, technologiquement.
Technologiquement, ça tient la route.
Oui, ça tient la route.
Ça se justifie au niveau de la consommation, quand on fait les calculs, quand on regarde.
Brut comme ça, oui. Si vous comptez pas le budget d'achat et tout ça, oui. Si vous comptez votre kilomètre roulé, oui, bien sûr, vous êtes gagnant. Okay. Après, il faut tout calculer aussi.
Hein, bien sûr.
Et puis ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être moins vrai demain, parce qu'une fois de plus, malheureusement, enfin, je veux pas être la mauvaise voie, mais c'est un marché qu'on subit, l'automobile. Le consommateur ne choisit pas sa voiture, rappelons-le. Le consommateur, il est là, il suit ce qu'on lui dit de faire. Je me souviendrai toujours, moi, du diesel. On nous a dit, on a répété, voire même on a critiqué fortement les consommateurs qui roulaient à l'essence. Moi, j'ai connu ça. Les voitures essence, on leur disait que c'était des vilains, que c'était des gros pollueurs. C'était pas des bons Français. On n'était pas loin de leur dire ça. et on a collé du diesel. Et puis 40 ans plus tard, on dit, on est en train de nous dire que le diesel, franchement, rouler au diesel...
Ce sont des fumeurs de gitane.
Oh, rouler au diesel en plus dans les centres-villes, mais non, mais alors là, on est carrément montré du bout du doigt.
Alors donc, que l'époque catalytique récente, quand on regarde les taux de pollution, il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits.
Donc, ça. Puis demain, on nous dit qu'il faut rouler à l'électricité. Bon, aujourd'hui, quand on pose la question, qui est une question basique, hein, j'ai envie de dire que un enfant pourrait se poser, c'est enfin un enfant, tout du moins.
Comment on la recharge
et puis surtout, comment on produit l'électricité, quoi.
Voilà. Au groupe électrogène,
diesel. Au niveau du volume, au niveau du volume d'électricité que ça va demander une fois que tout le monde aura une véhicule électrique, la question c'est de se dire comment on produit cette électricité, quels vont être les investissements qui vont devoir être faits, et puis quel prix à l'électricité nous sera facturé. Bon, tout ça, c'est pour dire qu'une fois de plus, à aujourd'hui, on a le choix, encore, à aujourd'hui, de savoir si on passe tout de suite ou pas encore à l'électricité. Mais malheureusement, ce choix-là nous sera imposé dans les années à venir.
Au niveau management, parce que c'est intéressant, on a donc un technicien qui a pris une gérance, qui est devenu propriétaire, qui est devenu un employeur, donc qui est devenu un dirigeant de PME. Au niveau management, vous aviez des formations familiales, vous venez d'un environnement d'entrepreneur, ou est-ce que vous avez dû apprendre sur le tas, vous confronter l'administration française à la réalité des fiches de paie, de la gestion des ressources humaines, ça s'est passé comment ?
Alors ça s'est passé tranquillement, avec d'abord un apprenti, et puis un ouvrier, un apprenti, et puis deux ouvriers, ainsi de suite.
Donc sur le tas, en fait. Vous
n'aviez
pas de culture familiale ?
Non, du tout. Non, moi j'étais ouvrier, mon père était ouvrier.
Enfin, puis vous êtes monté à 5-6 employés, je crois,
c'est ça, ouais.
D'accord.
Et vous avez ça s'est fait comme ça. C'est pas mon domaine de prédilection. Hein.
Pas ce que vous préférez dans le métier ?
Non.
Il peut y avoir un plaisir parfois dans la gestion des gens.
Ah ben c'est plaisant. Oui, je dis pas ça, mais bon, c'est pas mon fort.
C'est pas votre préférence de métier. C'est que par obligation plutôt.
Ouais, je suis quelqu'un d'assez speedé, on va dire.
D'assez speedé, ok. Et au niveau de la clientèle, vous avez quelle sorte d'approche ? Comment vous avez réussi à vous construire une clientèle ? Elle existait déjà, ou est-ce que la clientèle, vous avez réussi à vous faire la vôtre sur la durée ?
Oh oui, non, sur la mienne, sur la durée.
Ouais, oui, parce que chez le Vaillant, tout le monde se tutoie quasiment, je crois, j'ai vu. Hein. Oui. Beaucoup viennent et vous connaissent.
Oui, c'est du long terme.
C'est du long terme. Ouais. C'est choix, c'est placé dans le long terme, c'est volontaire ?
Bah, si vous voulez faire un métier dans le... Oui, bien sûr. Sinon, vous tombez comme des garagistes dont vous parlez, qui sont ça sur 2-3 ans, mais parce qu'ils sont malhonnêtes.
Oui,
ils ne sont pas sur le long terme.
Bien sûr.
Non, nous, c'était vraiment sur le long terme. Quand on est honnête, quand on est correct et tout, ça se passe bien.
Oui, et puis vous êtes le garagiste de village, et ce n'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. Vous êtes comme le boulanger du village, vous êtes comme le boucher, enfin, si tant est, il en existe encore, malheureusement, parce que ça, c'est un métier qui est en voie de disparition, hein, la boucherie. Mais c'était voilà, vous êtes, j'ai envie de dire, vous faites partie du tissu économique du village, et on est bien content d'avoir un garagiste dans son village. Donc l'honnêteté, la transparence, ça c'est quelque chose que vous devez avoir, parce que sans quoi vous grillez rapidement.
Bien sûr. Bien sûr, oui.
Donc c'est pour ça que faites confiance à vos garagistes de proximité, parce que ce sont des gens qui logiquement ont pignon sur rue depuis longtemps et qui connaissent les obligations qu'ils doivent aussi vis-à-vis de leurs clients. Moi, je voulais juste faire une parenthèse. Alors, ils ne sont pas là. On aurait pu leur donner la parole, mais c'était pas l'émission. Sur les repreneurs de votre garage, ce sont vos salariés. Et ça,
non, c'est pas.
C'était pas vos salariés.
Non. Ils travaillent dans le milieu automobile. Ils sont mécaniciens tous les deux, mais ils sont commerciaux.
Ah, d'accord.
Ça, c'est intéressant. D'accord. On a une affaire, on la monte, on la fait grossir, on veut la vendre. Effectivement, comment ça se passe ?
Quel est le profil un peu des gens qui reprennent votre garage, leur moyenne d'âge ?
30 ans, 32 ans.
Donc ils sont jeunes. Ils sont jeunes.
BTS mécanique, voilà, ils ont des idées sur plus la voiture d'occasion, les choses comme ça. Ça va être différent, c'est sûr que ça va être différent.
Ils se sont mis à deux pour acheter le garage, pour ni plus ni moins qu'une raison de économique, ou parce qu'ils ont envie de bosser ensemble, c'est des copains et...
Il y a ça, ils ont envie de bosser ensemble, et ils ont chacun leur domaine. Il y a un qui est plus garage mécanique, on va dire, continuer ça, et l'autre, la voiture d'occasion.
D'accord, donc ils sont complémentaires, c'est
tout
bien.
Tout en continuant le carburant et tout, voilà.
Très bien, très très bien. Donc, je le répète, il y a des opportunités pour ceux qui veulent...
C'est compliqué de vendre une société ? un fonds de commerce, une clientèle, un business, en fait, une activité comme ça, à vendre, à céder, c'est compliqué ? Administrativement
là, oui, administrativement, c'est un peu lourd. Ouais.
Ça...
Et encore, je pense que le plus dur arrive quand on va arrêter. On n'arrête pas comme ça. Quoi. C'est plus facile de créer que d'arrêter. Quoi.
Est-ce que vous vous faites accompagner dans cette session d'entreprise ?
Oui, bien sûr.
Qui c'est qui vous accompagne ? Enfin, qui, pas de nom, hein, mais de profession. Quelles sont les professions ?
Avocate d'affaires.
Avocate d'affaires.
Celle qui a fait le sous-sein, celle qui fait les démarches.
D'accord, c'est... Bien ouais, sûr. D'accord.
Maintenant, pour vendre un business, il faut un sous-sein, il faut un avocat.
Attention. Parce que moi, je suis pas très à l'aise avec tout ça. Je sais pas, je préfère faire dans mon garage. Que
vous avez préféré déléguer quelqu'un
qui
soit carré. D'accord.
Pareil, le comptable.
Je pense que l'avocat d'affaires est un passage obligé. Hein.
D'accord.
Hormis si c'est une toute petite affaire, mais enfin, dès qu'on commence à faire un peu de chiffre d'affaires, il est préférable quand même de se rapprocher d'un avocat d'affaires, ne serait-ce que dans l'entreprise, c'est pas comme si on vendait, je sais pas moi, une voiture, quoique il y a une garantie hein, du cédant hein, pendant une certaine période où celui qui vend le garage on observe un peu comment ça se passe après la vente et on peut lui demander des comptes hein, si le chiffre d'affaires n'est pas là, si il y a donc il y a enfin ça se fait pas comme ça comme D'accord. aussi simplement
mais
comme
c'est
ça.
Intéressant à expliquer.
Oui, quand vous rachetez une entreprise, vous n'achetez pas uniquement une enseigne, vous achetez un chiffre d'affaires, vous achetez une entreprise, vous achetez une activité, et donc de par ce fait, quand la vente se fait, il y a une période d'observation sur laquelle vous pouvez remettre en cause...
Alors sur le web, c'est un site web, c'est deux ans et demi.
Oui, deux ans et demi, vous pouvez remettre en cause le prix de vente hein, ou la forme de la vente. Tout ça, c'est des hommes de loi hein, qui doivent être là pour bien valider et faire les choses proprement pour les deux parties, hein, j'entends bien.
J'explique aux gens, si vous montez un site internet demain, vous faites un chiffre d'affaires, vous voulez le revendre avec le nom de domaine, l'audience et puis vos revenus, vous justifiez de ce que vous avez rentré comme bénéfice durant les 3-4 dernières années. On fait un chiffre d'affaires moyen multiplié par 2 ou 3 et c'est grosso modo la valeur de votre business sur Internet.
Aujourd'hui, on peut dire que aussi bien les acheteurs que les cédants, ils ont le moyen de bien se faire accompagner. Il y a des conseils aussi bien au niveau des institutions, hein, les CCI, les chambres de métiers, et puis bien sûr au niveau des métiers comme avocat, comme expert comptable, comme consultant. L'entreprise et les cédants et repreneurs peuvent vraiment se faire bien accompagner. C'est important de le dire parce que tout le monde, personne d'ailleurs, personne ne peut se dire être professionnel dans tous les métiers. C'est pas possible, ça n'existe pas.
Juste pour information, la station service, la station essence, c'est pour rendre service ou vraiment ça rapporte ?
Ah non, au départ, chaque village avait sa station.
Hein, ça a eu payé, c'est ça. Ça a eu payé, mais ça ne paye plus, d'accord.
Là, c'est plus
un service.
C'est un service.
Surtout quand vous voyez régulièrement dans les comparateurs de prix, vous êtes parmi les moins chers de la région.
Ah peut-être, ouais. Et c'est une vitrine aussi ? Oui. Les gens s'arrêtent, les gens voient le garage, les gens... Voilà, il y a une clientèle qui s'est forgée comme ça aussi. Hein.
D'accord. Mmh. Okay. Oui. Bon, pour conclure...
Moi je suis... j'espère que nos auditeurs ont passé un bon moment avec nous et surtout de pouvoir conclure que le garagiste, le métier, c'est un métier manuel, mais c'est un beau métier. C'est un métier en plus qui économiquement est viable à aujourd'hui et pour les années à venir. Et que ne vous fermez pas des potentiels, des opportunités.
Ah oui.
Il faut s'intéresser à ce métier et à reprendre des garages. Il y a beaucoup de garages à reprendre. Hein.
Et puis respectez vos anciens, parce que la manière de faire d'il y a quelque temps, peut-être qu'elle avait ses raisons d'être et ses valeurs. Voilà.
Monsieur Levaillant,
merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt et bonne retraite à vous.
Merci.
Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
La présidente, monsieur le ministre.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle existe. Des trésors satinés. Doré à souhait.
RLP.
Radio Libre en Périgord.